Les relations entre les pays producteurs et les compagnies pétrolières, effectivement, diffèrent en fonction des mœurs des pays, si vous voulez. Alors, par rapport aux compagnies anglo-saxonnes, donc les méthodes ne sont pas les mêmes comparées aux méthodes des compagnies françaises. Lorsqu'ils sont en négociation avec les pays producteurs, les autorités politiques donc, de ces pays agissent ouvertement pour appuyer leurs compagnies auprès des États concernés. Alors, par rapport à la méthode française, effectivement, c'est un peu différente. Quand il s'agit des anciennes colonies françaises, la méthode est radicale. En général, on fait un coup d'État ou une guerre civile. À ce moment-là, on installe au pouvoir une personne donc acquise à la cause de la compagnie. Et donc, la corruption se fait automatiquement. Les compagnies françaises sont présentes également dans des pays qui ne sont pas des anciennes colonies françaises. Là, dans ce cas, effectivement, c'est le système de pot de vin qui fonctionne. Donc, on essaye de corrompre le dirigeant étranger qui possède la signature.
Pouvez-vous nous expliquer les mécanismes de cette corruption?
Si vous voulez, de l'argent est prélevé dans les caisses d'une des filiales de la compagnie. Alors, l'argent est rarement prélevé dans la maison mère ici en France. Et cet argent est placé dans un paradis fiscal sur un compte qui appartient à un cadre de la compagnie. Et donc, c'est ce cadre-là qui est chargé effectivement de transférer l'argent donc aux dirigeants étrangers. Et en général, ce n'est pas tout l'argent qui est transféré, c'est juste une partie. Et l'autre partie, effectivement, semble-t-il, cet argent est reversé aux dirigeants politiques français. Alors, ce qui est gênant là-dedans, c'est quand même que les sommes qui sont détournées n'apparaissent pas dans les comptabilités des compagnies. Donc, c'est ça qui est dangereux.
Est-ce que selon vous, c'est une fatalité les pots de vin dans les sociétés pétrolières?
Non, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il suffit étant donné qu'il n'y a pas de justice internationale, donc il suffit que les États fassent un effort pour demander donc à leurs dirigeants d'arrêter ce genre de pratique.
Ce n'est pas une spécificité française, n'est-ce pas?
Dans les pays anglo-saxons, effectivement, ce genre de condamnation de cadres qui corrompaient, c'est du passé. C'est-à-dire que les cadres ont été condamnés par le passé. Et ça arrive que maintenant en France. C'est pour ça que ça fait un bruit. Quand on arrête un dirigeant français d'un PDG d'une grande compagnie qui se lance dans la corruption, effectivement, ça fait tout un boucan simplement parce que c'est nouveau.
Et quels sont les pays qui sont touchés par cette affaire? Est-ce que, par exemple, je crois que le Tchad est touché, le Cameroun?
Quasiment toutes les anciennes colonies françaises sont impliquées.
Est-ce que ces affaires de corruption et de pots de vin des sociétés pétrolières ont des répercussions sur les populations locales en Afrique notamment?
Naturellement, on va prendre l'exemple du Congo-Brazzaville. C'est le quatrième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Mais le Congo a 70% de sa population en dessous du seuil de pauvreté. Si on donnait à chaque Congolais sa part de l'exploitation pétrolière de son pays, tous les Congolais vivraient au-dessus du seuil de pauvreté, sans travailler. Donc ça vous montre en gros l'ampleur des détournements. Donc chaque Congolais vivrait au moins avec 2 dollars par jour, si l'argent était géré correctement, s'il n'y avait pas cette corruption. Un Congolais est plus pauvre qu'un Burkinabé, par exemple, un pays où il n'y a pas de pétrole, où il y a moins de richesses naturelles. Et donc là, on voit bien qu'il y a un gros problème. Si cette affaire de corruption n'est pas réglée, ça va créer énormément de déséquilibre. Et donc ça justifie un peu tous les problèmes d'immigration. S'il y a 70% de Congolais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, s'ils n'ont pas de solution, pourquoi ils vont rester dans leur pays?